Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, quatrième dimanche après Pâques, nous nous retrouvons, comme les apôtres, au milieu du guet, entre cette fête magnifique de la résurrection, qui nous a consolés, je l'espère, et cette fête de la Pentecôte, qui nous donnera le feu d'aller porter au monde la vérité tout entière. Il nous faut, pour jouir pleinement des fruits de ce temps liturgique, c'est le cas à chaque époque liturgique de l'année, vous le savez, il nous faut nous mettre dans, en quelque sorte, la peau des apôtres qui étaient avec les saintes femmes dans cette période intermédiaire, pas très confortable, il faut bien le dire. Nous, nous connaissons la suite, mais eux, pas encore. Ils avançaient comme à tâtons, comme dit l'apôtre, ne sachant trop où aller. Et quelles étaient leurs dispositions, parce qu'il faut nous appliquer à avoir les mêmes dispositions que nos devanciers glorieux que sont les apôtres et les saintes femmes. Ils étaient encore bouleversés par cette expérience inouïe de la résurrection. Nous avons, nous, été heureux de commémorer la résurrection. Mais eux ont vu Jésus passer à travers les murailles, ils ont vu Jésus leur tendre ses mains et ses pieds, et ce côté, après 3 jours où ils doutaient, pour la quasi-totalité d'entre eux, que les promesses de Jésus se réalisent. Ils sont encore traumatisés, si j'ose dire, par le choc post-opératoire de la résurrection de leur Seigneur, et ils sont dans l'attente d'un événement que Jésus avait annoncé. Il n'avait pas seulement annoncé sa résurrection, il avait annoncé qu'il enverrait l'Esprit de vérité. Et c'est le texte de l'Évangile d'aujourd'hui qui reprend les paroles du Seigneur juste après la célébration de la première messe et juste après que Jésus eut lavé les pieds de ses apôtres. Cette promesse, elle est extraordinaire, mais il faut bien le dire, elle est totalement mystérieuse. Ils n'avaient déjà pas compris grand-chose lorsque le Seigneur leur avait promis qu'il sortirait du tombeau. On le comprend, c'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un a le culot, si j'ose dire, de sortir du tombeau et de vaincre la mort. Et alors, lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, les choses sont pires encore, parce que ce Saint-Esprit-là, ils ne comprennent pas très bien de qui il s'agit. Quand Jésus dit que le Fils de l'homme ressuscitera, il voit à peu près de qui il s'agit. Même si le fait extraordinaire, il n'arrive pas à le réaliser, ni avant, ni même après la résurrection de Jésus. Quand il s'agit de l'envoi du Saint-Esprit, voyez-vous, les apôtres sont totalement perplexes, parce qu'ils ne comprennent absolument pas qu'il s'agit de rien moins qu'une des 3 personnes de la Trinité. Vous voyez que nous sommes un peu dans la même posture que les apôtres, dans la peau des apôtres. Il est assez facile de s'y couler sous cet angle-là, parce que nous ne savons pas nous-mêmes qui est le Saint-Esprit. Nous avons appris, et pour les plus jeunes d'entre nous, depuis peu de temps, mais ils le savent bien, que le Saint-Esprit est une personne, qu'il est l'égal du Père et du Fils, qu'il est la divinité à égalité avec les deux autres, qu'il est depuis toujours et pour toujours, qu'il a toutes sortes de dons à nous offrir, et pas seulement à Noël. Et c'est à peu près tout ce que nous savons de cette 3e personne de la Trinité. Alors, pour comprendre les choses, pour comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement une colombe au moment du baptême de Jésus, pour comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement une somme de langues de feu, le jour de la Pentecôte, dans le Cénacle, ce dont nous nous doutons, même lorsque nous sommes enfants, nous ne sommes pas dupes du fait que le Saint-Esprit ne saurait se limiter à être une pauvre colombe ou des petites langues de feu. Il nous faut, pour entrer dans la vérité tout entière, pour entrer dans la connaissance de cette personne, il nous faut utiliser un subterfuge. En fait, c'est le Seigneur lui-même qui a inventé ce merveilleux subterfuge. Il porte un nom, il s'appelle Marie de Nazareth. Saint Maximilien Marie Kolb, qui se qualifiait lui-même de chevalier de l'Immaculée, s'inscrit dans la longue lignée des apôtres de Notre-Dame, je n'en cite que 2, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà que Kolb, celui qui est mort dans le bunker de la mort en 1941, déporté à Auschwitz, comme vous le savez, avait une mariologie, c'est-à-dire une théologie de la Vierge Marie extraordinaire, dans la mesure où elle permettait de mieux comprendre qui était le Saint-Esprit. La question récurrente de Kolb était « Qui es-tu immaculé ?» ou encore « Qui es-tu Saint-Esprit ?» Et pour lui, ces 2 questions ne faisaient qu'une. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas être trop spéculatif, mais de vous montrer comment par la théologie de Kolb, disons des rudiments de la théologie de Kolb, que j'espère ne pas avoir trop mal digéré, pour vous le restituer à peu près en l'état, nous pouvons accéder à une plus profonde connaissance de cet esprit qui nous échappe lorsque nous cherchons à comprendre qui il est. Kolb reprend les mots de Grignon de Montfort au sujet de la Vierge Marie en disant que le titre, c'est ce que disait Grignon, qui qualifie le mieux Marie, est celui d'épouse du Saint-Esprit. Épouse du Saint-Esprit, c'est magnifique. l'épouse du Saint-Esprit, en réalité, nous devrions tous l'être un peu, du moins dans notre âme, homme ou femme, peu importe. La Vierge Marie est l'épouse avec un grand E du Saint-Esprit. Mais il se dit que cette définition de Montfort est encore insuffisante. Pourquoi insuffisante? Parce que les relations qui existent entre deux époux, pour belles qu'elles sont, pour étroites qu'elles sont, et pas seulement dans les étreintes conjugales, mais par l'union des cœurs, par l'union des âmes, cette union-là ne dit encore pas grand-chose de ce qui se passe entre Marie et le Saint-Esprit. Alors Kolb a l'audace, parce qu'il en faut, de qualifier la Vierge Marie de sorte d'incarnation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans les relations conjugales, même si les époux sont étroitement unis, ils ne se renouvellent jamais l'un l'autre. Ils n'entrent pas dans l'autre pour de fond en comble le refaire. Or, c'est ce qui se fait avec le Saint-Esprit dans la Vierge Marie. Tandis que dans le terme d'incarnation, on a bien cela. Le Saint-Esprit entre en Marie et la possède totalement comme aucun époux ne saurait posséder son épouse. Et il la possède durablement, avec une prévenance à l'égard de Marie qui est telle que c'est avec le Saint, le seul consentement de Marie qu'il agit. Hors de question de violer la Vierge Marie, si j'ose dire. Il entre dans Marie, il y demeure, il la possède, et à ses contemporains qui trouvaient que le mot était mal choisi, Kolb répond, écoutez, ouvrez l'évangile, vous voyez des démons qui possèdent une personne. Alors, le Créateur et Maître de tout, quel Saint-Esprit, ne serait-il pas à même de posséder ce que le démon est capable de posséder? Le Saint-Esprit le fait autrement plus en profondeur. Vous direz, je ne vois pas très bien en quoi la Vierge Marie révèle le Saint-Esprit. Vous nous dites qu'elle est possédée du Saint-Esprit, parfait, qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit, tout ça est très beau. Je vais faire un pas de plus avec Kolb. Kolb qualifie également la Vierge Marie de sacrement du Saint-Esprit. Sacrement du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Vous le savez, vous les enfants qui faites du catéchisme et nous les grands qui nous souvenons vaguement de nos cours de catéchisme, le sacrement c'est un signe sensible qui produit la grâce. Si on dit que Marie est le sacrement du Saint-Esprit, c'est donc qu'elle produit le Saint-Esprit. Alors, restons clairs, la Vierge Marie est une pauvre créature, toute belle qu'elle est, première des créatures, elle n'est qu'une créature, le Saint-Esprit est un créateur. Mais ce que veut dire Kolb avec l'expression de sacrement, c'est que là où est Marie, là est le Saint-Esprit. Marie, en quelque sorte, produit, l'expression est impropre, Marie produit le Saint-Esprit, représente le Saint-Esprit à chaque fois qu'elle va quelque part et à chaque fois qu'elle accomplit une action, on voit le Saint-Esprit à travers elle. Comme on voit ce nard délicieux à l'intérieur d'une très belle ampoule, c'est exactement ce qui se passe dans la Vierge Marie qui est d'un cristal très limpide qui laisse tout transparaître de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, ce nard de grand prix qu'est le Saint-Esprit. Vous voyez que la Vierge Marie, sacrement du Saint-Esprit, nous permet, vous voyez où je veux en venir, nous permet, totalement possédée qu'elle est par le Saint-Esprit, resplendissante du Saint-Esprit dans chacune de ses actions, dans chacune de ses pensées, dans la délicatesse qu'elle met à faire toutes choses, dans cette parfaite soumission à la volonté du Père, comme le Saint-Esprit est totalement docile au Père et également au Fils. Quand je serai monté auprès de mon Père, je vous enverrai l'Esprit. Il ne vous apprendra rien de nouveau, il répétera ce que je lui ai dit. Vous voyez, le Saint-Esprit docile au Père et au Fils. Eh bien, la Vierge Marie, parfait réceptacle du Saint-Esprit, est la créature la plus docile qui soit à la volonté du Père et à la volonté du Fils via le Saint-Esprit qui est en elle. Lorsque nous regardons Marie, lorsque nous contemplons Marie, dans la moindre de ses paroles, vous me direz qu'il y en a très peu dans l'Écriture, ou dans le moindre de ses gestes, et là encore l'Écriture est très discrète, alors nous voyons le Saint-Esprit. Vous voyez, médiateur très simple, médiateur auquel peut-être vous n'auriez pas songé, que ce canal-là, qui est la Vierge Marie, pour remonter au Saint-Esprit. Et Kolb, alors là, c'est le bouquet final de sa théologie, qui lui a valu tant de reproches parce qu'on l'a pris pour un hérétique. C'est vrai que les expressions qu'il emploie, d'incarnation, de sacrement du Saint-Esprit, sont un peu osées, mais reconnues totalement par le magistère, à commencer par Pie XII, son contemporain. Kolb finit en disant que la Vierge Marie est la médiatrice de toute grâce. C'est-à-dire que rien qui descende de la Trinité sur terre ne passe par la médiation de la Vierge Marie. Il n'est rien qui ne passe par la médiation de la Vierge Marie. Ce que les pères de l'Église avaient déjà compris en qualifiant Marie de cou. Elle est le cou entre la tête, qui est Jésus-Christ, mais là où est Jésus, là est son Père, et là où est Jésus est son Esprit, donc entre la Trinité et le corps, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Le cou est ce canal obligatoire entre la tête et le corps, entre le ciel, la Trinité et les créatures. Et dans un sens, c'est-à-dire descendant, la Vierge Marie manifestant la Trinité, et dans un sens ascendant, la Vierge Marie portant à la Trinité nos intentions de prière, nos soucis, nos résolutions, et se faisant nécessairement entendre de cette tête-là, puisqu'elle est le cou tout proche de la tête, sur lequel repose la tête. Kolb est vraiment, je trouve, un apôtre extrêmement limpide quand il rend compte de ce mystère de la Vierge Marie pour accéder au mystère de la Trinité. Il ose dire que Marie est comme un complément de la Trinité, qu'elle est dans la Trinité. Alors entendons-nous bien, il ne fait pas de Marie une quatrième personne de la Trinité, sinon il ne s'agirait plus de Trinité du reste, mais de quaternité, je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là, peu importe. La Vierge Marie est simplement cette excroissance, si l'on veut, voulue par Dieu de manière absolument gratuite pour nous permettre d'accéder à la Trinité. Pourquoi ? Parce que la Trinité est trop élevée, parce que la Trinité se sait bien au-delà de nous-mêmes, de notre connaissance, trop puissante, peut-être redoutable, à l'image de la façon dont elle se présente dans l'Ancien Testament, à Abraham, par les trois mystérieux personnages qui viennent aux chaînes de Mambré, vous le savez, se manifester à Abraham, ou encore à Moïse dans le buisson ardent, où Abraham et Moïse n'ont qu'une solution, se prosterner face contre terre sans regarder cette Trinité-là. Comme la Trinité se sait bien au-delà de notre perception, bien au-delà de notre intelligence, alors elle a inventé ce petit marchepied qu'est la Vierge Marie beaucoup plus proche de nous, parce qu'elle est pour nous comme une mère. Elle nous permet d'entrer dans le mystère de la Trinité parce qu'elle est le réceptacle parfait de l'Esprit-Saint. J'espère que ces quelques considérations kolbiennes ou kolbesques, je ne sais pas comment on doit dire, vous permettront de vous préparer mieux que d'habitude. Vous le faites déjà très bien, mais cette année ce sera merveilleux, à ce temps très fort de la Pentecôte, très fort parce que certains d'entre vous vont le sentir jusque dans leurs jambes et dans leur dos, grâce au pèlerinage de Chartres, mais pour ceux-mêmes qui ne marcheraient pas, c'est évidemment dans le cœur que tout se passe, et l'Église a voulu dans sa sagesse qu'il y ait autant de semaines avant le temps de la Pentecôte. En fait, Jésus a voulu dans sa sagesse qu'il y ait 50 jours entre la résurrection et l'envoi de son esprit, eh bien, jouissons de ce temps, au lieu d'attendre les prochains repas de famille et de pouvoir se gaver à nouveau comme nous l'avons fait après Pâques, au moment de la Pentecôte, au lieu de cela, préparons nos âmes. Il faut rendre grâce à Dieu d'avoir autant de temps pour le faire, en méditant en compagnie de la Vierge Marie sur le Saint-Esprit. Elle était au milieu des apôtres, on n'en dit rien du tout, c'est d'ailleurs très touchant, cette discrétion de Marie, tout effacée qu'elle est, au bénéfice de la Trinité, au bénéfice du Saint-Esprit, elle est la présence du Saint-Esprit au milieu des apôtres. Jésus, entre la résurrection et la Pentecôte, apparaît de temps à autre à ses apôtres, mais comme pour les rassérénés, pour préparer les ultimes préparations de son Église avant de s'élever à la droite de son Père, mais la Vierge Marie est d'ores et déjà une sorte de capitaine qui, non seulement aux côtés de Saint-Pierre, mais en réalité au-dessus de Saint-Pierre, assure la présence du Saint-Esprit au milieu des apôtres, avant même qu'ils ne le reçoivent matériellement, j'allais dire, au moment de la Pentecôte. Bien, jouissons de la présence de Marie, de Notre-Dame du Cénacle, de Notre-Dame des Apôtres, pour nous préparer et recevoir, alors là, toute somme de cadeaux que le Saint-Esprit a préparé pour nous au moment de la Pentecôte, pour être enfin des chrétiens dignes de ce nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.